Vous écoutez
RMC.
RMC.
Yo, c'est en train d'avoir le... Oh là là, oh. Et but. Maintenant, oh, but de Diop.
Papa Diop.
Sur le centre de débordement de Diop. Diop qui vient marquer le premier but de ce mondial. Victoire du Sénégal à Séoul. 1 à 0.
RMC, l'afterfoot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, bonsoir le Sénégal. C'est l'afterfoot en direct de Dakar. On est là jusqu'à 22h, heure française, jusqu'à 20h, heure du Sénégal. L'after est là, première radio de France. Le soir, on est en direct sur RMC, comme d'habitude, sur Afterfoot TV, en direct sur YouTube également. Bien sûr, comme tous les soirs. Et nous sommes à l'Institut français de Dakar qui nous reçoit maintenant 9 jours. Eh oui, 9 jours. Dans 9 jours, France-Sénégal. Et on commence à flipper, parce qu'en 2002, tout le monde s'en souvient, évidemment, tout le monde se souvient ici comment ça s'est passé. Donc on s'est dit, bon, allons voir le Sénégal pour en savoir un petit peu plus sur l'équipe, sur les ambitions des Lions. Et on est très heureux d'avoir quelques auditeurs fidèles de l'After qui sont venus nous voir ici. Merci à tous. Alors je suis venu de Paris avec Elton Mokolo, qui est là. Salut Elton.
Bonsoir Gilbert, bonsoir le Sénégal et bonsoir Dakar.
On peut applaudir. Alors Elton est neutre, il est congolais, donc
il est maîtrisable.
Et voilà, Souleymane Diawara évidemment, si qui d'autre que Souleymane pour venir faire cette émission avec nous à Dakar. 48 sélections, c'est ça?
C'est ça, exactement, 48, zéro but.
En même temps, t'es défenseur central, on va pas.
Non,
c'était pas non plus ta mission première.
C'est mon seul regret.
Ah oui? Ton seul regret?
Pas de pas avoir marqué quand même.
Bon. Alors pendant deux heures, messieurs, on va débattre de l'équipe nationale, de son ambition à la Coupe du Monde. On va parler du match, évidemment, afin de voir si vous pouvez nous refaire le coup de 2002. On va parler de la formation également. Tout à l'heure, Alioune Touré, le manager de Diambar, sera avec nous parce que la formation, ça marche très bien au Sénégal. Il y a des ponts avec la France très importants. Et puis, vous savez que France-Sénégal, c'est aussi... un match diplomatique. Donc tout à l'heure, l'ambassadrice de France sera également avec nous pour nous expliquer ce qui va se passer ici en marge du match. Voilà, le 32-16 est ouvert évidemment pour débattre si vous voulez intervenir. Notre numéro WhatsApp toujours 06 12 424 424. Et puis vous qui êtes ici, si vous voulez participer au débat, on a des micros, il suffit de lever la main et vous serez bien sûr les bienvenus. Et puis on a une petite surprise d'ici un petit quart d'heure, si tout va bien. Le capitaine de la sélection sénégalaise sera en ligne avec nous depuis les États-Unis pour prendre un peu la température à quelques jours du match. Bon, Soulé Elton, on a des invités, c'est du très très lourd.
Ah oui, là oui.
Là, c'est du très très lourd.
Là, on a du lourd.
On a du lourd.
Deux, trois visages qu'on a croisés à la CAN notamment.
Exactement. J'aimerais d'abord accueillir Alassane Dour, qui était de l'équipe en 2002, qui a battu la France. Donc, il connaît la recette. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Dakar, bienvenue à tous, bienvenue au Sénégal, chez les Lions.
Eh ben merci de ton accueil. Et on a avec nous des personnalités influentes qui font l'opinion ici au Sénégal. Là, c'est un retour pour Aliou. Aliou, il faisait l'after il y a 20 ans avec moi. Aliou Goloko est là, salut Aliou.
Merci Gilbert, bonjour le Sénégal. Et quel plaisir et quelles émotions de te voir ici à Dakar dans mon pays, parce qu'effectivement tu as été la première personne à me mettre sur RMC, c'était en 2002 à Bamako, et ensuite une aventure a commencé, j'ai fait des directs, j'ai fait des matchs, j'ai fait la Coupe du Monde, j'ai fait beaucoup d'émissions sur RMC, et c'était vraiment la belle époque.
Toujours avec une objectivité totale sur le Sénégal bien sûr.
Toujours.
Évidemment. Docteur Gandour est également avec nous, docteur bonsoir.
Bonsoir.
Docteur, il fait aussi l'opinion ici au Sénégal, consultant pour la radio-télévision sénégalaise, la RTS. Moi, je vous ai vu un soir de Sénégal-Gambie. Je me suis dit, ah ouais, ça renvoie de l'opinion quand même là. Sur l'analyse du match et tout, vous n'étiez pas content?
Pas content, mais toujours heureux de parler de foot. C'est surtout ça le plus important, c'est ce qui nous réunit ici. Et puis, merci pour cette invitation. Bonsoir le Sénégal, salam alaikum. Et puis, on est aujourd'hui dans le pays des champions d'Afrique, donc on sait parler football ici.
Très bien, ça commence. Alors, avant d'établir la liaison dans quelques minutes avec les États-Unis, première chose, les objectifs du Sénégal à la Coupe du Monde. Alors le Sénégal, c'est la troisième fois d'affilée, mine de rien, que le Sénégal est à la Coupe du Monde, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la sélection. La première fois, c'était 2002, évidemment, avec le quart de finale dont tout le monde se souvient. 2018, premier tour. 2022, huitième de finale. Donc, Soulé, pour toi, c'est quoi l'objectif? Faire mieux qu'il y a 4 ans? Ce serait déjà bien, c'est-à-dire aller au moins en huitième, en quart de finale? Ou est-ce que toi, tu vois plus grand?
Moi, je vois plus grand. Mais il faut avoir la tête sur les épaules quand même. Déjà, il faut aller, comme ils disent les Anglais, step by step. Déjà, essayer de faire mieux que la précédente Coupe du Monde. Déjà se qualifier, parce que la précédente, c'était en huitième de finale, on était éliminé. Et là, déjà, le premier objectif, faire mieux, essayer d'aller en quart. Et pourquoi pas, demi, finale, et rajouter une petite étoile en plus.
Ah, ça y est, tu as commencé doucement, mais.
Il a parlé de step by step au départ.
Non, mais c'est pour ça, premier objectif, c'est de faire, je pense, de faire mieux que la précédente. C'est-à-dire, le huitième, passer le huitième, et aller en quart. Et après, Dieu est grand, verra.
On va en parler, mais l'équipe a quand même beaucoup changé par rapport à il y a 4 ans. Elton, toi, tu dis quoi sur le Sénégal? Comment tu vois les ambitions?
Être encore une fois une équipe de phase éliminatoire de Coupe du Monde. Ça avait été un tournoi qui avait été encourageant. Tu perds face à l'Angleterre. Alors oui, le score avait été large, mais pour autant, tu avais montré de bonnes choses. Sans Sadio Mané, il faut quand même le rappeler, mais tu avais une victoire qui avait été importante face à l'Équateur sur un match couperet. Et moi, j'ai envie de voir le Sénégal dans le top 8, donc c'est-à-dire quart de finale. Et là, tu peux quand même compter sur un renouvellement de génération qui est quand même très intéressant, des joueurs qui ont pris du galon. Et donc là, t'as quand même une poule qui est certes compliquée, mais qui n'est pas inaccessible, loin de là. Donc pour moi, l'objectif, c'est quart de finale.
Voilà, rappelons la poule de la France et du Sénégal avec l'Irak et la Norvège. Et avec la nouvelle formule, en étant parmi les meilleurs troisièmes, avec une victoire, t'es quasi sûr d'être qualifié. Alassane, toi, tu fixes quoi comme objectif à ta sélection?
Faire mieux que nous.
Mieux que les quarts finales?
Ouais, mieux que les quarts finales. On a les possibilités, les moyens d'aller à. De faire mieux. Maintenant, ce sera des matchs qu'on va prendre les uns après les autres. Mais le Sénégal est capable de faire mieux que l'épopée de 2002, c'est-à-dire aller dans le dernier carré.
Bon, docteur Gandour et Aliou, dites-nous, parce que le Sénégal fait aujourd'hui partie, de mon point de vue, on l'a vu encore à la CAN, des meilleurs. Enfin, tu vois, c'est du chapeau 1 ou chapeau 2 des sélections mondiales. Vous vous considérez comment?
Je me considère comme une des plus grandes nations déjà africaines de football. Parce que je pense que le palmarès et la qualité des joueurs, en plus l'encadrement, il faut pas l'oublier, est présent. Après, pour dire que sur cette Coupe du Monde, les objectifs, oui, c'est sûr qu'il y a d'abord les premiers objectifs. Une Coupe du Monde à 48, le minimum, c'est de sortir de sa poule. Je pense que c'est le premier pas à faire. Après, ce sont des objectifs intermédiaires. Je rejoins Soleil. Les objectifs intermédiaires, c'est prendre les matchs comme ils arrivent, mais avec la qualité des joueurs que nous avons. Vous avez parlé d'un groupe expérimenté. Moi, je pense aussi qu'il faudra ajouter beaucoup de jeunesse, d'insouciance et de qualité qui sont venus se greffer à ce groupe-là. Vous avez un entraîneur qui a l'habitude maintenant de gagner des trophées. Chan, Khan, je pense que ça, c'est important dans le groupe. Pour moi, aujourd'hui, le Sénégal fait partie de, comme il a dit Alassane, faire déjà mieux que 2002. 2002, moi, je pense que c'est du talent pur. 2026, vous avez du talent, on va parler de la formation tout à l'heure, vous avez du talent, vous avez de l'expérience, vous avez de la qualité, et puis vous avez aujourd'hui de la maturité, et la maturité tactique aujourd'hui, je pense que les équipes africaines, en dehors du Sénégal, il y en a quelques-unes qui peuvent s'asseoir sur les tables sur la table des plus grandes nations européennes. Donc pour moi, le Sénégal est pour moi, il est parmi, je vais plus loin encore, pour moi, l'objectif minimal, c'est d'être au moins dans les 4 derniers.
Minimal.
Samuel Eto'o, il y a 4 ans,
champion du monde.
Il avait dit, nous, on vient pour être champion du monde. Tout le monde l'avait dit, t'es gentil, t'es le Cameroun, tu ne seras jamais champion du monde. Bon, je ne veux pas comparer le Cameroun d'il y a 4 ans avec le Sénégal d'aujourd'hui, mais il y a un truc, Aliou, qu'il faut dire, c'est qu'on voit souvent les sélections africaines comme les petits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Sénégal peut battre tout le monde.
Tout à fait. Il n'y a plus de petits poussés. C'est vrai que pendant longtemps, l'Afrique a été confinée à des rôles de juste participants. C'était aussi, selon l'évolution des équipes africaines en Coupe du Monde, on est passé d'une première sélection, ensuite deux sélections, africaine à partir de 1974, ensuite 3 sélections, ensuite 5 sélections, et pour la première fois, on aura 10 sélections africaines qui participeront à cette Coupe du Monde. Ça augmente nos chances d'aller très loin. Le Maroc a donné l'exemple de la dernière Coupe du Monde, ils sont allés en demi-finale. Aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur le Sénégal, tout simplement parce que c'est l'équipe championne d'Afrique. C'est l'équipe aujourd'hui qui peut s'asseoir à la table de beaucoup de nations, parce qu'elle a eu à se frotter à pas mal de grandes nations avec des résultats assez positifs. Mais par-delà tout, ça reste une équipe qui a de l'ambition. Et nous avons une histoire particulière avec la Coupe du Monde. On reste le tout premier pays africain à participer à une Coupe du Monde et atteindre les quarts de finale en 2002. Mmh. En 2018, on était la seule nation africaine à passer au second tour. On se faisait éliminer par une équipe d'Angleterre. En 2018, c'était assez mitigé parce qu'on sort sur la loi du fair play.
Le tirage, ouais, c'est ça. Oui.
Donc cette année, ça devrait être la belle, ça devrait être la confirmation et l'achèvement de toutes les expériences que nous avons acquis en Coupe du Monde. On y va avec de l'ambition, on y va avec beaucoup d'humilité aussi, mais on va pour surtout transmettre les vraies valeurs sénégalaises sur le terrain de foot.
Pour moi, c'est très important, c'est un acquis ce que fait le Sénégal, cette récurrence lors de la Coupe du Monde, cette capacité d'enchaîner, parce que on le sait, sur le continent, c'est très difficile d'enchaîner les Coupes du Monde. Et le fait d'avoir cette récurrence, le fait d'être en fait un visage de la Coupe du Monde, eh ben, ça te donne beaucoup plus de confiance au moment d'affronter les équipes. Là, le 16 juin prochain, on va pas avoir une équipe qui va arriver en victime, en outsider. Non, c'est une équipe qui va arriver avec l'ambition, pas seulement de réaliser un exploit, mais une performance, pour moi, c'est une nuance, mais elle est très importante.
Il y a quand même saoulé un sélectionneur qui n'a pas beaucoup d'expérience.
Il n'a pas beaucoup d'expérience, mais...
La première fois qu'il est sur le banc lors d'une Coupe du Monde, par exemple.
Du Monde comme entraîneur.
Oui, oui, bon, après, vous savez, moi, je ne suis pas très fan des gens qui regardent un entraîneur par rapport à l'expérience, parce que le football a montré qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi sans avoir d'expérience, notamment en Ligue 1 par exemple. Mais là, cette fois-ci, il vient, il n'avait pas d'expérience avec la A, il réussit à gagner la CAN. On va plus parler d'expérience.
C'était sa première.
Ouais. C'était sa première. Et il a montré encore une fois ses qualités d'entraîneur. Pas besoin d'avoir une grosse carrière d'entraîneur pour montrer ses qualités, et il l'a encore démontré à la dernière CAN où il a fait une excellente CAN. Avant ça, il avait remporté la CHAN aussi. Donc, pour avoir de l'expérience, il faut continuer à faire ce qu'il fait. Et petit à petit, il va prendre de l'expérience et il va être encore meilleur.
Et surtout, il faut dire qu'il compense. Il compense beaucoup ce que vous appelez ce manque d'expérience avec beaucoup de volonté d'apprendre, d'avancer, beaucoup d'humilité, d'écouter surtout les gens avec qui il travaille, d'écouter d'autres personnes, des anciens. Mais c'est surtout avec une capacité qui est très rare aujourd'hui dans le milieu. Il a quasiment peur de rien. Pape, c'est quelqu'un qui a une grosse foi déjà, mais au-delà de tout, il a aucun complexe, il a peur de rien. Quand vous discutez avec lui, c'est quelqu'un qui est toujours optimiste et il a une confiance mais aveugle à son groupe. Et quand vous discutez avec lui, il dit avec ce groupe, je peux aller n'importe où à Liou. Et ça, c'est très important pour un entraîneur. Quand il sait qu'il a des soldats, il a une armée qui est derrière lui, prête à aller. Quand il est beaucoup plus motivé pour montrer le chemin.
Et on le voit plusieurs fois où les joueurs, ils sont prêts à mourir pour l'entraîneur. Mmh. Et ça, comme il l'a dit à Liu, c'est important. Moi, j'ai un peu d'expérience sur ça où il y a des entraîneurs qui m'ont fait confiance. Et pour leur rendre cette confiance qu'ils ont mis sur moi, j'étais prêt à mourir sur le terrain pour eux. Et quand t'as des soldats comme ça, tu peux aller au bout du monde.
Okay. Ce qui s'est passé à la finale de la CAN, à la fin, là, on a pu penser qu'il manquait un peu de sang-froid, le sélectionneur, ou pas. Enfin, je sais pas quel est votre avis. Là aussi, il découvrait comme ça une grande finale avec tout l'environnement, la pression, tout ça. Il va avoir un peu plus de recul, là, de maturité sur ce genre d'événement, par exemple. Comment vous avez jugé le comportement de fin de finale de ce jeune sélectionneur?
Ouais, c'est un jeune sélectionneur qui avait cette fougue là de gagner au Maroc avec un parcours exceptionnel du Sénégal. Voilà, donc je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il y avait un sentiment d'injustice que lui, il n'a pas apprécié sur le coup. Donc on a vu sa réaction, mais nous, je dirais pas qu'on va condamner ça. Justement, c'est quelque chose qu'on on va pas valoriser non plus. Mais ça fera partie de son histoire. Donc il y a cette Coupe du Monde qui arrive. Forcément, il a beaucoup appris de cette CAN. Pour se projeter dans cette Coupe du Monde avec certainement une meilleure maîtrise en soi, mais c'est un jeune entraîneur, mais qui a montré tellement de belles choses en 2 ans de coaching, Et voilà, donc il a aussi un groupe expérimenté. Quand on parle d'expérience, il a un groupe très expérimenté. Il a des cadres, pratiquement une colonne vertébrale, où qui ont fait pratiquement trois coupes du monde. Voilà, donc il s'appuie beaucoup sur ces cadres-là, et ça aussi, c'est une des forces de cet entraîneur.
Docteur Gandour, avoir un sélectionneur sénégalais, c'est devenu incontournable, obligatoire. Parce que là, il y a eu deux sénégalais d'affilée. Avant, il y a eu une série d'entraîneurs. Il y a eu pas mal de Français qui sont passés ici au Sénégal. Il faut absolument que ce soit un sélectionneur sénégalais qui entraîne le Sénégal.
Écoutez, je pense que pendant plusieurs années, on a eu ce qu'on appelle entre guillemets les sorciers blancs. Des entraîneurs qui connaissaient pas
toujours sorcier d'ailleurs, oui, parce que ça marchait pas.
Voilà. Ouais, mais on a eu pendant plusieurs années des entraîneurs comme ça qui venaient en Afrique, spécialement au Sénégal. Pour moi, qui était très loin de la réalité et de nos réalités africaines et surtout sénégalaises, celui qui s'est rapproché le plus et qui a réussi à fusionner ce groupe-là, justement, Alassane Dour est bien placé pour en parler, c'est le défunt Bruno Metsu. Et après, en dehors de ça, on a sorti un groupe incroyable de 2002. Vous avez des joueurs incroyables qui sont sortis, et la preuve, deux des meilleurs entraîneurs que le Sénégal a eu, parce que je vais les quantifier par rapport au titre qu'on a pu remporter grâce à ces entraîneurs-là, c'est Aliou Cissé et Pape Thiaw. Et ils font partie de la génération 2002. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable. L'expertise, elle est là. Les qualités sont là. Vous avez parlé tout à l'heure de jeunes entraîneurs inexpérimentés. Je pense que c'est d'abord beaucoup de caractère. Il fallait avoir du caractère pour justement prendre cette décision d'appeler son groupe et d'aller dans les vestiaires, et puis être vraiment sûr de ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense que Pape Thiaw, aujourd'hui, c'est vraiment... en utilisant un cliché, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais je pense que quand vous avez un entraîneur comme ça, et quand vous avez des joueurs qui sont double champions d'Afrique, qui ont gagné des Champions League, qui ont été champions dans leur pays, dans les championnats locaux dans lesquels ils jouent, aujourd'hui, je pense que Pape Thiaw, cette expérience-là, il va la puiser avec ces éléments-là qui l'entourent et qui entourent cette jeunesse.
Dans un instant, on continue le débat. Tu veux dire salut, vas-y.
C'était justement sur les entraîneurs. Il est important également de noter que le Sénégal, en la matière, est un pays de référence, parce que la plupart des entraîneurs africains ou noirs, entre guillemets, qui ont exercé dans des clubs professionnels, sont quasiment tous sénégalais. Le pionnier, c'est Lamine Diaye, quand il était entraîneur de Martigues, entraîneur du premier club professionnel en France. Après, tu as Omar Daf, tu as Habib Bey, tu as Daniel Thun, qui est sénégalo-allemand, Patrick Vieira, qui est sénégalo-français. Donc, Ça peut être une explication aussi.
Il y a une école des entraîneurs sénégalais, en fait.
Ouais, il y a une école, autant il y a une école
plutôt
portugaise,
des qualités,
une école espagnole. On peut parler d'une école sénégalaise qui est peut-être en construction. Il y a Pape Thiaw, il y a comment il s'appelle, Mbaye, qui est au Maroc aujourd'hui. Il y a plein d'entraîneurs sénégalais. Mbaye qui est là-bas. Et plein d'autres entraîneurs sénégalais qui arrivent. Et ça explique un petit peu aussi la passion déjà des Sénégalais pour le jeu, mais pour son aspect technique et tactique. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça s'explique sur cette profusion d'académies dans le pays. Ça répond à l'amour du jeu que les Sénégalais ont, et surtout du beau jeu.
Dans un instant, on va parler de l'équipe et des joueurs. Si vous voulez bien, messieurs, on continue le débat. Et puis, si vous voulez donner votre avis ici avec nous à l'Institut français, vous serez bien sûr les bienvenus. Dans quelques secondes, on se retrouve tout de suite.
RMC, 20h-22h. L'After Foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 20h20 à Paris, 18h20 ici à Dakar. On est là jusqu'à 22h en direct du Sénégal, à 9 jours du choc du premier tour de la Coupe du Monde pour l'équipe de France face au Sénégal. On va parler du match tout à l'heure, mais là pour l'instant on parle de la sélection, on va parler des joueurs dans quelques instants. Souleymane Diawara est toujours là, Elton Mokolo, Aliou Goloko, Alassane Dour et Docteur Gandour qui sont avec nous. Tout à l'heure on parlera formation, on a plein de sujets, vous allez voir d'ici 22h. Dans quelle mesure ce qui s'est passé à la CAN va peser ou pas à la Coupe du Monde ? C'est fini, on a oublié tout ça. C'est un feuilleton qui va durer jusqu'à peut-être encore quelques mois. Hein, tribunal arbitral du sport, toutes les procédures et tout. Enfin, au Sénégal comme au Maroc, c'est un sujet qu'on a...
Je peux me lancer ?
Tu peux te lancer, alors, oui. Aliou Goloko.
Déjà, le contexte il est complètement différent. Parce que on est dans une Coupe du Monde, c'est une autre compétition. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce qui s'est passé, et ça me permet de rebondir. La réaction de Pape aurait été celle de n'importe quel Sénégalais dans ce contexte pris du match. N'importe quel Sénégalais, que ce soit ceux qui sont présents ici dans cette salle ou ailleurs, aurait eu exactement la même réaction. tout simplement parce que c'est dans notre ADN de nous battre contre l'injustice. C'est historique, c'est politique, c'est culturel, c'est comme ça. L'Homo Sénégalensis est ainsi formaté. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième, il faut, beaucoup de gens s'arrêtent juste sur cette action-là, mais il y a eu un préalable en fait. Pendant tout le parcours du Sénégal, mais également de la sélection nationale du Maroc, sur cette CAN, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales qui étaient fort contestables, il y a eu beaucoup de frustrations, et c'est l'accumulation de toutes ces frustrations qui sont tombées sur le Sénégal et sur ce geste de Pape Thiaw. Aujourd'hui, avec le recul, il a dit pertinemment qu'il aurait peut-être dû pas réagir comme ça, mais nous au Sénégal, comme l'a dit Alassane, on peut pas lui en vouloir pour ça, parce que nous sommes épris de justice, nous sommes épris d'équité, surtout dans le sport. Et aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, cela a permis de changer les lois, les règles du jeu, désormais.
C'est vrai.
Donc, ça veut dire que ça ne se passera pas.
Donc, la nouvelle règle, c'est que si une équipe maintenant quitte le terrain, voilà, ce sera match perdu automatiquement.
Voilà. Et le Sénégal.
Jurisprudence.
On peut l'appeler jurisprudence, oui. Pape Thiaw, si oui, on veut. Mais le Sénégal a déjà gagné ses deux cannes sur un territoire adverse et il n'y a jamais eu de problème. Tous les trophées à ce jour que nous avons gagnés. De toutes les catégories, à tous les niveaux ont été gagnés à l'étranger et nous n'avons jamais eu de problème de comportement et vis-à-vis de ça. Donc voilà, le Sénégal va aller se battre aussi pour la Coupe du Monde, mais elle sera fière et debout et fera face à des injustices s'il y a des injustices.
Et d'ailleurs, il y a une autre règle, ça n'a rien à voir, mais j'y pense là. Il y a une autre règle assez étonnante qui a été mise en place, c'est que désormais, si un joueur veut gagner du temps en envoyant le ballon,
exactement,
si le ballon est sorti des limites du terrain,
tu
tapes dans le ballon pour l'éloigner, c'est corner pour l'équipe d'en face.
Exactement. Et si tu tardes la touche, c'est la touche pour l'équipe adverse.
Voilà.
Ça, ce sont les nouvelles règles du jeu qui vont être appliquées.
En plus de la pause pub qui va être inventée. Donc, je reviens à la question. Aliou décorèle complètement la Coupe du Monde de ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec ça, les gars?
Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que...
Je veux dire, le président de la Fédé, il peut pas aller voir Pape Thiaw, il dit, bon, un peu de sang-froid, on va pas refaire le coup, je sais pas, moi,
Non, mais après, vous savez, avec le recul même, Pape, il sait ce qui est de bien, ce qui est pas bien. Maintenant, on peut pas, comme ils ont dit, à chaud, lui en vouloir. Parce que ça, c'est la réaction de tout entraîneur. Et avant ça aussi, avant tous ces déboires qu'il y a eu pour ce match-là, faut pas oublier aussi que le Sénégal, quand est arrivé au Maroc, je crois que c'était la veille ou deux jours avant, ils ont pas eu de sécurité. Ils sont arrivés à la gare sans sécurité.
Oui, le déplacement de la demi-finale à la finale.
Et ça peut être très dangereux.
Le terrain,
il y a beaucoup de choses qui font que...
Bon, on va pas refaire l'histoire de la gare.
Voilà, c'est pour ça
on la connaît par cœur.
Je dis ça, tu vois. Mais
aujourd'hui, la meilleure des choses pour le Sénégal, et vous êtes bien placé pour savoir, c'est le temps est passé et il y a surtout l'enchaînement des matchs. Et aujourd'hui, en tant que compétiteur, tu dois basculer sur la Coupe du Monde parce que c'est des considérations qui sont différentes avec des adversaires qui vont pas, entre guillemets, rejouer la finale de Rabat. Et en ce sens, pour le Sénégal, tu dois être focus notamment sur le fait de te qualifier. Et pour moi, c'est la meilleure chose possible. Ressasser pour ressasser, ça n'aidera personne. Mais clairement.
Et ce qui est intéressant, il y a une possibilité que le Sénégal rejoue le Maroc à cette Coupe du Monde, et ça, ce serait très intéressant, parce que ce serait la belle.
Attends,
on les a
rejoués
plusieurs fois, et on les a gagnés.
Tu es sûr que ça l'excite, Aliou, rien d'elle.
Non, parce que, en ce moment, ça nous permettra de régler définitivement ce problème, et montrer quelle est la meilleure équipe parmi les deux.
Bon, est-ce que l'équipe de 2026, est meilleure que celle de 2022, chers amis? Cher docteur.
Non, mais là, pour le coup, il y en a qui sont pas objectifs, là, sur cette question.
Mon problème avec cette question-là, c'est que 2022, c'est nous, hein. C'est la famille. C'est compliqué de choisir. Par contre, je pense que.
Non, tu confonds. 2022,
c'est.
Ah, mais 2022, il y a pas mal de changements, hein.
Même ouais. 2022, il y a pas mal de changements.
Écoutez, 2022, vous avez un groupe qui est encore là pour 2026. Donc ça c'est très important pour Pape Thiaw, pour l'équipe du Sénégal. Est-ce qu'elle est beaucoup plus forte? Moi je pense que oui, parce que on a de jeunes joueurs qui sont venus et qui ont apporté un peu ce qui manquait un peu à Aliou Cissé, c'est-à-dire cette folie, cette fougue, le jeu aller provoquer. Pour moi le jeu d'Aliou Cissé était un peu trop stéréotypé, très défensif, essayer de blinder au maximum derrière. Avec Pape Thiaw, on a beaucoup plus de transitions rapides, un jeu plus vertical, des joueurs qui vont prendre des risques et qui vont aller chercher l'adversaire. Oui, pour moi, 2026, l'équipe est meilleure.
Moi, je ne suis pas du même avis.
Ah, vas-y, Aliou.
Ça reste 2002.
Pour moi, ça reste 2002 en termes de valeur.
Mais moi, je voulais comparer 2022 et 2022.
Oui, 26, alors, 2022, j'ai eu la chance de vivre avec l'équipe de l'intérieur, parce que j'étais dans le groupe qui était au Qatar. Alors, cette équipe de 2002, c'était une très, très bonne équipe. Elle était assez complète. Elle vivait assez bien. Mais elle
de coup, Aliou. Ouais. On est en direct avec les États-Unis, avec le capitaine de la sélection qu'on peut applaudir, messieurs dames, ici à Dakar, Khalidou Koulibaly est avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien?
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir à tous.
Bonsoir et merci d'être avec nous pour quelques minutes. Première question, votre état de forme. Comment est-ce que vous vous sentez après votre blessure récente et est-ce que vous allez bientôt pouvoir être à 100%?
Je me sens très très bien. On a pris notre temps, on a fait les choses vraiment avec intelligence. On voulait pas en fait nous presser. Et pour le moment, je me sens très très bien. J'ai repris avec le groupe. Ça fait quelques jours et je suis très content. Et là, maintenant, on va essayer de voir quand je pourrai jouer. J'espère contre l'Arabie Saoudite, mais on verra bien. Ça, c'est le coach qui décidera. Et surtout, on va pas prendre le risque parce que le début de la compétition va commencer. Et après, ça sera au coach de faire ses choix.
Oui, il y a un match amical hein, contre l'Arabie Saoudite.
Tout à fait, le 9
avant le match le 16 face à l'équipe de France. Souleymane, tu es avec un de tes successeurs au poste de défenseur central, donc je te laisse lui poser les questions que tu veux.
Ali, salut, c'est Soulé. J'espère que tu
grand
vas
frère,
bien.
Grand frère, ça va? Ouais, très bien, grand frère, merci. Et toi?
Bon, déjà, je suis très très bien, merci. Déjà, je suis content que déjà tu ailles beaucoup mieux parce qu'on sait que la santé, c'est le plus important. On avait pas un petit débat, mais on parlait tout à l'heure des objectifs du Sénégal. On voulait savoir, c'était quoi l'objectif? C'était de faire mieux que la dernière Coupe du Monde ou voire plus grand encore, nous ramener la Coupe du Monde à Dakar.
Tu sais très bien, Soulé, je vais pas te l'apprendre, on sait très bien que nous, nos attentes pour le Sénégal...
Non, mais je préfère que ça vienne de toi, au moins tout le monde entend.
Très haute. Après, voilà, on veut toujours faire mieux que ce qu'on a fait. On voulait faire mieux que nos aînés. On a réussi, on a gagné ces deux cannes-là. Maintenant, on veut faire mieux que nos aînés, c'est-à-dire aller le plus loin possible. Déjà, passer l'écart au minimum. C'est un premier objectif. Et ensuite, on a tous un rêve derrière nos têtes. On sait qu'on est capable de faire de grandes choses. Et j'espère qu'on le fera. On a des objectifs très, très hauts, mais on va garder les pieds sur terre aussi parce que c'est une Coupe du Monde. C'est le meilleur, le best du best. Je pense qu'il n'y a pas mieux, dans le football. Donc, on sait que ça va être très, très difficile. On sait qu'aussi, on a le talent, la qualité, l'humilité, le professionnalisme pour aller le plus loin possible. Et notre objectif, ça va être d'aller le plus loin possible et de faire rêver les Sénégalais.
Le match contre l'équipe de France, Khalidou Koulibaly, ce n'est qu'une étape. Alors, j'ai l'impression qu'on essaye un peu de dédramatiser ce rendez-vous parce qu'évidemment, tout renvoie à chaque fois à 2002. Donc, on va forcément comparer.
Je pense qu'il s'attendait à ce que tu finisses la question.
Oui.
Vous m'avez entendu?
Oui, j'entends, ouais.
Je repose ma question.
Voilà, on sait que ce match contre l'équipe de France, ça va être un match très important parce que c'est le match d'ouverture pour nous. C'est le premier match de cette Coupe du Monde. Pour nous, on sait que on veut toujours bien commencer les compétitions. Ça passe par des victoires. Mais voilà, ça va être un match contre une des meilleures équipes au monde aussi. Donc c'est un match qui sera regardé. Nous, on va tout faire pour le gagner, mais on va oublier ce qui s'est passé dans le passé parce que voilà, 2002, c'était 2002. Aujourd'hui, on est en 2026. C'est des autres joueurs, c'est une équipe quand même qui a été championne du monde, il y a pas très longtemps, donc et qui a été finaliste à la dernière campagne, donc on sait que ça va être difficile, on va tout faire pour les mettre en difficulté, on sait qu'on est capable de le faire, mais voilà, faut pas résumer cette Coupe du Monde à ce match-là contre la France, faut résumer cette Coupe du Monde à tous les matchs, à ces trois premiers matchs qu'on devra gagner pour pouvoir se qualifier dans un premier temps.
Elton.
Khalidou, c'est la troisième participation de suite du Sénégal à la Coupe du Monde. Il y a eu évidemment la Russie, le Qatar, là vous allez arriver aux États-Unis. À quelle place tu mets le Sénégal aujourd'hui parmi toutes ces nations en Coupe du Monde?
Moi, je rêve grand. Et mon rêve, c'est que pour moi, le Sénégal aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure équipe du monde. Après, voilà, on sait qu'il y a aussi d'autres équipes, qu'il y a d'autres joueurs, des joueurs de classe mondiale, il y a des joueurs qui sont vraiment importants. Donc, on sait que ça va être très difficile. Mais moi, mon objectif, c'est que le Sénégal aille le plus loin possible et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mais ça passe par jouer des matchs, ça passe par être humble, ça passe par souffrir, ça passe par avoir beaucoup de discipline et ça passe aussi par croire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Et si nous-mêmes, on n'y croit pas, je pense que personne n'y croira pour nous. Donc voilà, nous, on y croit, on sait qu'on est capable de faire une grande Coupe du Monde et c'est notre objectif.
Merci beaucoup, Khalidou Koulibaly, de nous avoir comme ça donné quelques minutes. Je pense qu'on peut applaudir le capitaine de la sélection, messieurs, dames, qui est ici. Et évidemment, on sera là pour vous suivre, aussi bien depuis la France, parce que nous, on a un peu peur là, qu'ici au Sénégal. Merci beaucoup.
S'il nous remet un autre but que nous qualifie pour le second tour, nous, on est preneurs, hein, capitano.
Voilà.
Un autre petit but que nous qualifie au second tour, on est preneurs.
Merci beaucoup.
Merci à tous. Salut tout le monde, tous ceux qui sont sur le plateau et à très bientôt. Merci à vous.
À très bientôt. Dans un instant, on revient ici en direct de Gat de Dakar pour continuer de parler de l'équipe. Faut qu'on prenne un peu des nouvelles des stars. Faut nous en donner, messieurs, dans quelques instants. Et puis surtout, quel va être le 11 type. Ça aussi, on aimerait bien savoir, rentrer un peu plus dans les détails dans quelques minutes, parce qu'on a vu un match amical avec pas mal d'absents là,
contre
les États-Unis. Donc, on va rentrer un peu plus dans les détails de l'équipe dans quelques instants. Ensuite, on va également parler du problème des supporters, parce qu'il n'y aura pas de supporters, enfin de déplacement organisé de supporters. On est encore là pendant une bonne heure et demie en direct de Dakar avec vous tous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, l'after foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 20h36 à Paris, il est 18h36 ici à Dakar. Nous sommes à l'Institut français pour une émission spéciale consacrée au foot sénégalais à 9 jours du match France-Sénégal de la Coupe du Monde. Souleymane Diawara est là, ex-international sénégalais avec... vous avez joué ensemble avec Alassane ? Un petit peu en sélection, non ?
Alassane Dour ? Peut-être un match.
Un match ?
Ouais, un match, ouais.
On a fait. Parce que toi, Alassane, tu étais la génération avant Souleymane.
Moi, je suis venu juste après la Coupe du Monde.
Juste après la Coupe du Monde. Docteur Grandour est là, qui fait l'opinion sur la RTS, l'opinion football. Aliou Goloko, bien sûr, incontournable dans le paysage du football sénégalais. Et Elton Mokolo, qui lui espère que la RDC passe le premier tour. Mais il fait moins le malin depuis qu'il vous écoute.
Non, mais il n'y a que 8 matchs dans une Coupe du Monde, de toute façon. C'est quoi 8 matchs?
Oui, vu comme ça. Tu peux, oui. Bon, comment vont les stars? Comment va Sadio Mané? Est-ce que, depuis qu'il est plus dans un grand championnat européen, il est moins bien? Quelle est sa situation? Qu'est-ce que vous en savez, Aliou? Toi qui le suis, puis après peut-être
au Sénégal. Au Sénégal, on n'aime pas parler de stars. Et Sadio lui-même n'aime pas qu'on le désigne comme la star.
Bah, pardon, c'est quand même la star de l'équipe.
On va dire le leader.
Bah, arrêtez vos mythos.
Au Sénégal, la star c'est l'équipe et Sadio c'est le leader. C'est le leader technique de cette équipe. Donc, on va dire, il va très bien. Je pense que il s'était blessé quand il était au Bayern. Je disais aux gens, avec ce genre de blessure, il faut attendre 2 ans pour revenir à son meilleur niveau. Depuis l'année dernière, il est au meilleur niveau. La preuve, il a fini cette année meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations.
Il a marqué en match amical il y a quelques jours.
Alors, au match de la Coupe du Monde, il a mis un doublé en amical contre les États-Unis. Il a été un acteur majeur du titre remporté par son club en Arabie Saoudite. Donc, ça reste notre atout offensif, notre premier atout offensif.
Votre star, quoi.
Mais ça reste notre atout maître et ça reste celui qui tire toute cette équipe du point de vue technique. Il va très bien. À côté de lui, tous les autres cadres, Edouard Mendy, Garna Gueye, Khalidou Koulibaly, Ibrahima Moussa Niakhaté et Ismaël Assar. Et cette jeune pousse montante avec Lamine Camara, ils vont tous bien. Ils vivent très bien, le groupe vit très bien en tout cas en ce moment. Et la force de cette équipe, c'est que les plus jeunes acceptent d'écouter ceux qui ont plus d'expérience et de se mettre derrière eux pour aller chercher des objectifs.
Je veux bien, on est au Sénégal, on est dithyrambique. Enfin, moi, j'ai quand même lu qu'il y avait des problèmes avec la Fédé, que Papthiou, il n'a pas été renouvelé. Qu'en gros, il a pas eu de salaire depuis février, que là, il y a eu des problèmes d'organisation pour la Coupe du Monde. Donc, je veux bien qu'on fasse un tableau magnifique. Tout est bien, tout est superbe.
Bah, on parlait de l'équipe. Mais ça, c'est extra.
Non, mais les gars, ça ne concerne plus le football.
D'accord. Si, ça concerne le football.
On parle du rectangle vert.
On parle de l'équipe
terrestre.
Non,
c'est plus notre problème.
C'est de l'eau.
C'est de l'eau pour les moulins. On donne de l'eau pour les moulins. On essaye aller de déplacer le débat, de le mettre un peu en dehors du sportif. Moi, je pense que
si vous n'êtes pas payé depuis 4 mois, vous faites quoi? Vous continuez de bosser?
Justement, c'est pour ça que je pense qu'il est payé. Alors donc s'il était pas
donc
payé,
c'est peut-être une fausse information.
Non, mais bon, moi je pense que c'est un faux débat. Après, il y a beaucoup de maturité. Je continue à le dire, non seulement au niveau de l'équipe, mais autour de cette équipe-là, c'est très important. Le Sénégal a passé un palier. Il est dans un cap. Il est dans, on va dire, dans la lignée des grandes nations de football. Et ça passe aussi par une organisation administrative très intelligente et très performante.
Jusqu'à ces problèmes, on avait coutume de dire que la Fédération sénégalaise de foot était une des mieux organisées d'Afrique. Là, il y a des.
Je pense que jusqu'à présent, elle est encore une des fédérations les mieux organisées d'Afrique. Et le modèle sénégalais est en train de s'exporter partout en Afrique. La preuve, Aliou pourra me le confirmer. Je pense qu'aujourd'hui, on vient chercher le modèle sénégalais, que ça soit le modèle, on va dire, d'administration et le modèle sportif. Il est cherché par beaucoup de pays. Aliou a parlé tout à l'heure des entraîneurs. Je pense que les entraîneurs les mieux représentés en Afrique, ce sont les entraîneurs sénégalais. Lamine Dia récemment aussi dans certains pays africains. Non, mais moi je pense que ça, il faut laisser ce débat pour ceux qui ont envie de remplir des papiers. Nous, on se concentre, comme Soulay l'a dit, sur le rectangle vert. Et le plus important, c'est qu'on a un groupe qui vit bien. On a des cadres qui arrivent à bien gérer l'entrée de ces jeunes pousses. Et puis on a une équipe qui est confiante et équilibrée. Je pense que ça, c'est le plus important pour la Coupe du Monde.
Souleymane, Alassane, vous avez été sur le terrain. Quand il y a des problèmes dans une fédé d'organisation, les premiers à râler, c'est les joueurs. Les premiers pas contents, c'est les joueurs. Vous n'allez pas, vous pouvez pas dire le contraire, quand même.
Oui, normal. Non, forcément, voilà. Les joueurs, ils exigent du professionnalisme parce que c'est des joueurs professionnels qui vivent dans ce monde professionnel-là avec leur club, donc qui ont ces habitudes-là, qu'on les traite bien. Oui, forcément, quand ça se passe mal au niveau de la gestion fédérale, les joueurs sont pas contents. Mais bon, là, c'était un cas, donc c'est le cas du coach. Je pense que rapidement, ils ont su régler le problème avant le départ. Et ce qui a été fait, je pense que maintenant, aujourd'hui, on va parler football. Le coach est très concentré avec son groupe pour faire une belle performance pour cette Coupe du Monde. Et c'est ça l'essentiel. Je pense que ça, c'est derrière nous. C'était juste une petite parenthèse. L'entraîneur, son prédécesseur, Aliou Cissé, est resté peut-être 4-5 mois sans être payé. Ça lui a pas permis, ça lui a pas empêché d'aller gagner la CAN. Donc il l'a fait, et puis après les choses sont rendues dans l'ordre. Et voilà, je dirais pas c'est des habitudes. Peut-être que il y a eu des incompréhensions, je sais pas, je suis pas dedans, mais en tout cas ce que je sais c'est que la fédération sénégalaise elle reste l'une des modèles en Afrique. Souvent même d'autres fédérations viennent un peu prendre un peu ce que le Sénégal est en train de faire, et ça fait tellement longtemps on ne parle plus de problèmes de primes, on ne parle plus de problèmes de déplacement, on ne dort pas dans les aéroports comme certaines équipes font. Souvent ils ont des problèmes de correspondance, la Fédé n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Voilà, tout ça c'est derrière nous, donc on se concentre.
Et c'est peut-être
plus
pour ça que ça interpelle, justement, parce que vu que c'est érigé en exemple, le fait d'avoir cette affaire, encore plus un sélectionneur qui a gagné et qui a pris en assurance, notamment par rapport à cette notion de considération par rapport à Pape Thiaw, c'est vrai que ça interpelle, ça.
Oui, ça interprète, franchement, parce que c'est des choses où on a l'habitude de voir, c'est des choses où on a vécu. Donc après, on se concentre sur le terrain. Pape Thiaw, aujourd'hui, a vécu des choses avec la sélection en tant que joueur. Aujourd'hui, il est entraîneur, donc il y a eu des choses que nous on subissait il y a peut-être 20 ans ou 25 ans que aujourd'hui qu'il subit plus. Aujourd'hui, c'est ces histoires-là de primes, de changement d'hôtel parce que l'hôtel qu'on nous a donné n'est pas bon.
Oui, les primes, vous avez laissé ça aux Camerounais, c'est
je sais pas, mais en tout cas, nous on a eu ces problèmes-là quand on jouait. Vous ne me direz pas le contraire. Mais ça fait partie du joueur.
Du football africain aussi, voilà. Et l'Africain a besoin de ça.
Absolument.
On n'aime pas quand c'est tout et tout est on a besoin un peu que ça dévie un peu. Ça nous donne une source de motivation encore plus.
Voilà.
Oui, mais faut quand même un niveau d'exigence. Moi, j'ai lu quelque part que Souleymane Diawara, il s'était fait virer de la sélection parce qu'un jour, il était sorti alors qu'il n'avait pas l'autorisation.
Bien sûr.
Donc, il faut que l'exigence, elle aille dans les deux sens.
Non, mais après, comme encore une fois, le docteur, il l'a dit, Alou l'a dit, ce sont des débats. c'est juste pour remplir les papiers. À Louis, c'est jamais plein dans les journaux. C'est plus les journalistes qui essayent de mettre cette tâche dans cette sélection. Ouais. Mais ça voilà.
En réalité, Gilbert, en fait, il faudrait aussi préciser par rapport à cette situation du contrat de Pape Thiaw. Après la CAN, son contrat était arrivé à terme.
Oui.
Il fallait rediscuter les clauses du nouveau contrat qu'il devait signer avec la sélection. Malheureusement, après la finale, il y a eu beaucoup de soubresauts qui se sont passés, le procès au TAS, et les compétitions qui se sont enchaînées. La fédération et l'entraîneur n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour discuter et finaliser le nouveau contrat. En temps, le départ pour les États-Unis sont arrivés. Mais il est important de savoir que l'argent n'est pas le moteur essentiel de Pape Thiaw à la tête de cette équipe nationale. Au-delà de Pape Thiaw, n'importe quel fils du Sénégal serait allé travailler d'abord, servir sa mission avant de parler de l'argent. Et ça, je peux vous le confirmer, parce que jusqu'à la veille du départ, Pape, il était assez meurtri que cette
personne... J'entends ton discours, mais dans le foot, il n'y a pas beaucoup de gars qui...
Gilbert...
Dans le foot et dans le monde du travail en général...
Non, Gilbert, tout travail mérite salaire.
Voilà.
C'est indéniable. Mais je veux dire que le salaire n'empêchera aucun fils du Sénégal d'accompagner sa
sélection. Et défendre les couleurs nationales.
Il ira faire l'entraînement et après les matchs de la compétition. Et quand il viendra, après, on réglera nos problèmes de prime de match. Ils l'ont tous dit, c'est derrière nous dorénavant. Aujourd'hui, l'équipe est concentrée. La preuve, l'équipe s'est déplacée aujourd'hui de Raleigh où ils étaient pour le nouveau site, là où ils vont jouer le match contre l'Arabie Saoudite. Et ils sont partis en vol spécial, encore une fois, parce que toutes les prédispositions ont été prises pour que cette équipe soit dans les meilleures conditions.
Dans un instant, on revient sur l'équipe pour avoir une idée du 11 de départ contre la France. Il faudrait qu'on se projette un petit peu quand même.
Gilbert, il est en train de nous prendre tous les secrets du Sénégal.
Défense
pas, les gars.
Il va tout donner.
Je ne vais pas tout donner.
On parlera pas d'autant.
Les gars,
moi, je le 11 de départ, Gilbert.
Là, sur YouTube, il y a 200 000 personnes qui écoutent.
Tony Silva, le 11 de départ, c'est Tony Silva, Souleymane Diawara, Kader Mangan, Alassane Dour, Pape Thiaw. Non, Pape Thiaw,
pas Jean-Paul. Jules Bocordé. N'importe quoi. Allez, à tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à 22h.
RMC, 20h-22h, l'after foot en direct de Dakar.
Gilbert Bribois.
Il est 20h48 à Paris, 18h48 ici à l'Institut français de Dakar où l'after continue jusqu'à 22h. Souleymane Diawara, Elton Mokolo, Aliou Loko, Docteur Gandour, Alassane Dour. Le problème de Soulé, c'est qu'il raconte des anecdotes les plus drôles pendant la pub.
Donc, je suis avec le popcorn.
Mais là, faut que tu racontes Kasper Zak qui était sélectionneur. Vas-y, là, allez. Tout le monde n'a pas entendu, les micros étaient éteints. Il y a prescription.
Non, Soulé a beaucoup de biscuits. Comme ça en sélection.
Bon, donc derrière il y a Tony Silva, Omar Daf.
Donc Henri Casperza qui faisait les entraînements à 5h du matin.
Ouais, bon, c'était. Bon, après chacun
sa méthode.
Voilà, chacun une méthode d'entraîner. Lui,
avec 5h du matin, bon, c'est pas commun.
Henri Casperza qui avait décidé de nous faire entraînement à 5h du matin pour pas qu'on sorte la veille.
Ah.
Et pour allumer le stade, il mettait les pleins phares du car. Bon, apparemment ça n'a pas fonctionné puisqu'on a été éliminé au premier tour au Ghana, à Tamale. Et en plus, il a quitté le navire, il nous a laissé comme ça.
C'est la Mediaï qui a fait le troisième match.
Bon.
Soulé a beaucoup d'anecdotes comme ça, mais je me rappelle surtout sa toute première sélection en équipe du Sénégal. Il jouait au Havre, teigneux défenseur. On connaissait plus son grand frère, Souleymane Diawara.
Et non, Souleymane, c'est lui.
Djibril, autant pour moi. Et Mamad était là. Et Mamad disait, Mamad Dounia était déjà en sélection. Il disait, mon cousin, il est encore plus fort. Et je suis allé le rencontrer au Havre, à Écrocoville, c'est ça?
Écrocoville,
son quartier.
Écrocoville,
Son quartier. On a parlé de l'équipe nationale. Deux semaines après, il était là. C'était sa toute première sélection. Quand tu es arrivé, je pense, on est parti à Dalifort, voir la famille avec Mamad. Et le soir, vous êtes parti au Tchossan avec 6 autres joueurs.
C'est quoi comme endroit?
Non, l'idée c'est pour vous dire que l'équipe du Sénégal en sélection, ils vivent toujours bien. Ils venaient d'arriver, il y avait Ibrahim Tall qui jouait à Sochaux à l'époque, il y avait Diomansé Camara, il y avait Ferdinand Colli. Ils venaient d'arriver, c'était les tout premiers, mais ils avaient été bien intégrés. Le stage commençait lundi matin, donc ce week-end-là, ils sont arrivés avant à Dakar et ils ont découvert le pays, ils ont été super bien accueillis. Et depuis lors, il nous a valu beaucoup de gros matchs, parce que Soulé, c'est un rock.
Très bien.
Merci.
Bon, Docteur Gandour, on veut le 11 de départ contre la France. Défense à 3 ou à 4 déjà?
Déjà, pour rejoindre ce qui a été dit, c'est moi je vois bien Tony Silva, Omar Daf,
Alugo Loco.
Pour être un peu plus sérieux, je pense que on a des certitudes. Et quand on va en Coupe du Monde, on va avec des certitudes. Une défense à 4, oui, pourquoi pas. Moi, j'opterais plutôt pour. J'aimerais bien voir une défense à 3 avec un milieu à 5. Mais bon, moi, ça c'est mon choix personnel.
Pour quelle raison? Pour quelle raison la défense à 3?
Contre les États-Unis, c'était défense à 3. Hein.
Ça n'a pas été fort. Hein.
Oui, mais ça n'a pas été fort. C'était expérimental avec Mamadou Sarr et Abdoulaye Seck. Je pense qu'on a besoin de voir ça. Après, en fonction de l'adversaire aussi, les demi-espaces, la verticalité de certains joueurs, la profondeur aussi de certains joueurs de l'équipe de France, j'ai bien envie de les contenir, de créer un entournoir au milieu de terrain. Et pour essayer un peu d'empêcher tout ça. Et après, ça va être du box-to-box au milieu de terrain. Oui, c'est une option. Après, je pense
Peut envisager qu'en fait, parce que contre la Gambie aussi, c'était défense à 3 le match amical. Donc, on peut envisager qu'il y ait une stratégie là de Pape Thiou de se dire, je prépare d'ores et déjà mon match contre la France, en fait, avec les amicaux de défense à 3, comme ça, pour un peu bétonner, quoi, en quelque sorte.
Ouais, mais moi, je pense que c'est plutôt la blessure de Koulibaly qui va obliger un changement de système. Maintenant, je sais pas s'il va être opérationnel pour le premier match. On saura plus dans deux jours. On a le match contre l'Arabie Saoudite, donc ça m'étonnerait pas que si jamais Koulibaly rentre en cours de match, on le trouvera titulaire contre la France. Parce que qu'on le veuille ou non, en dehors de l'histoire de 2002, en dehors du match que c'est France-Sénégal, en dehors de tout ce qui relie ces deux pays. Que ça soit la formation des joueurs, que ça soit nos binationaux, que ça soit l'impact que la France a eu un peu avec tous les joueurs sénégalais qui sont venus en équipe nationale. Ce premier match est très important. Que ça soit la France, que ça aurait été la Norvège, ça aurait été l'Irak au premier match. Je pense que dans une poule à 4, le premier match est toujours important et il faut le gagner. Il faut avoir toutes ces troupes présentes pour pouvoir faire un résultat.
Personne ne veut la donner, l'équipe. Elton, toi qui es neutre, tu peux y aller. Ah, t'as une idée?
J'ai souvent vu le Sénégal lors de la dernière CAN. Bah, pour moi, on partirait bien évidemment Edouard Mendy. Ensuite, on aurait Diatta. La charnière centrale, conditionnée par la présence ou pas de Koulibaly, mais ça serait Koulibaly Niakate. À gauche, moi, j'aimerais bien voir encore une fois Malick Diouf. Le milieu de terrain, et là, ça va être l'interrogation, Idrissa Gueye, Pape Gueye. Et ensuite, soit un numéro 10, soit un troisième milieu de terrain, auquel cas, c'est pas la même chose. Si on part sur un 4-2-3-1, Imane Diaye, à gauche, bien évidemment Sadio Mané, à droite Sarr, et devant Nicolas Jackson. Mais après, pour moi,
l'autre option, c'est mettre un troisième.
Pour moi, l'interrogation, on l'a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations où Pape Thiou aimait bien alterner. Si on a un troisième milieu de terrain pour renforcer et avoir cette supériorité numérique par rapport à l'équipe de France qui va arriver avec deux milieux de terrain a priori normalement, pour moi, ça pourrait être une option intéressante, en sachant qu'on a des Lamine Camara, qui avait été très important sur la finale contre le Maroc. Mais pour moi, c'est le cœur du jeu qui va définir ce que va faire le Sénégal sur ce premier match.
Alors, Pape Thiou est un entraîneur difficilement lisible avant match.
C'est vrai.
Parce qu'il ne donne jamais ses petits biscuits avant le match. Il y a cet aspect. Le deuxième, il s'adapte toujours selon le profil de l'adversaire qu'il a en face. Et si vous avez remarqué dans sa manière de gérer, notamment sur le côté gauche, il y a toujours une alternance entre Ismaël Jacobs et l'âge Malick Diouf. Pour vous dire qu'il est le seul à ce jour à savoir le plan de jeu qu'il a dans sa tête et les 11 joueurs avec lesquels il démarrera. Et la seule constante aujourd'hui, comme on a dit, on a des incertitudes sur notre défense centrale, Kalidou revenant de blessure. Alors, le match contre les États-Unis est un match qu'on ne peut pas prendre en compte parce que c'est un match de reprise, c'est un match amical. Par contre, celui contre l'Arabie Saoudite pourra nous donner des indicateurs. Pareil pour la France demain contre l'Irlande. On saura probablement, en tout cas 80%.
Dembélé va jouer par exemple demain.
Oui, les 11 joueurs français qui démarreront ce match, on les saura à peu près, on en saura à 80%. Et ça va être pareil au niveau du Sénégal. Lors du match contre l'Arabie Saoudite, on aura une idée de l'équipe qui va démarrer contre la France. Mais ce que je peux vous dire, il est assez averti pour savoir que ce ne sera pas un match facile pour lui. Il aura en face de lui une très grande nation de football, de très grands joueurs qui ont fait une brillante saison pour la plupart d'entre eux et qui veulent laver l'affront de 2002. Donc, il faudra tenir compte de tout cela pour mieux les contenir et pourquoi pas refaire un remake de 2002. Si on a un petit 1-0, nous, on serait contents.
Je l'entends bien. Souleymane Diawara, Niakate Koulibaly face à Kylian Mbappé. C'est ça. Comment tu vois ce duel?
Très bon duel.
Ah, ils seront trois d'ailleurs.
Deux défenseurs qui font partie des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ouais, j'ai pas peur de le dire.
Koulibaly encore aujourd'hui, même si il est plus à Naples ou à Chelsea.
Ouais, mais je pense qu'il a encore montré toutes ses qualités durant cette CAN, qu'il a encore cette capacité à être bien défendre, à contrer tous ces grands joueurs. Et il a affronté les meilleurs joueurs du monde.
Il a été meilleur défenseur de la meilleure Coupe du Monde des clubs aux États-Unis l'année dernière.
Encore. Ouais. J'étais pas au courant.
Il était dans l'équipe type meilleur défenseur avec Marquinhos.
C'est vrai que ça va être difficile, on va pas se le cacher, parce que l'équipe de France aussi a une équipe offensive très impressionnante. Sur le papier, quand on regarde l'équipe de France, c'est les favoris, on va pas se le cacher, mais je sais que le Sénégal, avec les qualités qu'ils ont, cette détermination, ils mettent encore plus d'impact physique, ils peuvent faire quelque chose. Ça sera dur, bien évidemment, parce que Kylian Mbappé, qu'on le critique ou pas, ça reste un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs attaquants, mais on a des défenseurs comme Nardé.
Oui, il y a aussi Olise, il y a aussi Dembélé, il y a aussi. Il y a Cherki.
Non, mais c'est vrai, sur le papier, l'équipe vrai, de France.
Bah, moi, je vais pas vous faire peur à tous ici, mais on a pas peur. On a quelques arguments quand même.
Ça reste des êtres humains, on a peur de personne.
Même pas peur.
Ça reste des êtres humains. Mais oui, ça va être difficile, mais ça va pas être une partie de plaisir aussi pour les attaquants français.
Exactement.
En 2002, Alassane, vous étiez dans quel état d'esprit avant le match? Parce qu'en 2002, pareil, l'équipe de France en prenait sur le papier. Il y avait les meilleurs buteurs de tous les grands championnats. Où tout le monde annonçait, de toute façon, on s'est réglé, on va la gagner. Et vous arriviez là en étant un petit poussé inconnu.
Très, très, très bon état d'esprit. On avait un très, très, très bon état d'esprit. On vivait très, très bien en groupe. Les entraînements étaient de qualité. Une opposition déjà entre nous qui était de qualité vraiment exceptionnelle. Nous-mêmes, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. On le sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mijoter. On a eu la chance aussi d'avoir une équipe de France qui nous a minimisés.
Enfin.
Qui nous a minimisés, qui nous a peut-être pas pris au sérieux.
Ça, c'est une grosse différence avec cette année.
Peut-être tant mieux pour eux. En tout cas, s'ils font les mêmes erreurs que le René, ils vont vraiment souffrir, hein, parce que ce match-là, ça sera vraiment pas une partie de plaisir pour l'équipe de France, parce que les jeunes Sénégalais sont prêts, ils savent vraiment ce qui va les attendre sur le terrain, ils savent qu'ils doivent faire aujourd'hui. Je vais appeler ça c'est un exploit, hein, parce que gagner cette équipe de France reste un exploit qui n'est pas impossible, parce que nous l'avons fait, d'autres équipes l'ont réalisé. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils vont pas sous-estimer cette équipe du Sénégal, parce que les Sénégal a horreur qu'on les sous-estime. Donc, mais on avait un très bon état d'esprit la veille de l'entraînement, je me rappelle. Quand on avait terminé l'entraînement, nous tous même, on se parlait entre nous en disant, je pense qu'on est prêt pour affronter cette équipe de France. Et même quand on rentrait dans le tunnel, on les voyait un peu nous regarder un peu de haut. On sentait que voilà, il fallait qu'on leur marche dessus, comme le disait Bruno.
La dimension physique, elle sera importante sans doute d'ailleurs aussi le 16 là dans le match, à mon avis.
Comment?
La dimension physique là.
Ça sera la clé du match.
Leur marcher dessus. Bon,
ça sera la clé du match. Aujourd'hui, il faudra mettre beaucoup d'impact aujourd'hui physique contre cette équipe de France, parce que techniquement, oui, vous avez cité Olise, Mbappé, et j'en passe, Cherki et tout ça. Oui, forcément sur le papier, c'est une équipe de rêve. Maintenant, ça c'est la réalité. Ça sera sur le terrain. Aujourd'hui, un match, on ne le gagne pas juste en faisant des petits ponts. C'est un match, il faut mettre beaucoup d'impact physique, il faut gagner les duels, il faut aller sur les transitions qu'on sait faire, parce que le Sénégal a de très bonnes transitions rapides et directes. Donc, on est très bon, on a des joueurs très athlétiques. Donc, ce sera la clé du match pour le Sénégal, ce sera l'impact physique qu'on mettra sur le terrain.
Messieurs, on arrive à la fin de notre première heure. Je voulais dire un mot de... Tu as toujours ton opération, les marmites du cœur, qui continue d'exister?
C'est oui, ça. Oui, toujours les marmites du cœur. Hein, c'est l'association, comme j'ai dit, c'est les restes du cœur en mode sénégalais. Et voilà, c'est une association qu'on a créée avec mon ami Moustapha Dieng et Aliou Goloko qui fait partie des membres. Donc,
On va vers la 17e édition.
17e édition, c'est une association qui œuvre dans le social, qui fait un peu comme du giving back, comme un peu Coluche avait fait. Et on est très content de ce qu'on est en train de réaliser un peu partout au Sénégal et même.
Il y a un site où si les gens qui nous écoutent veulent plus d'informations. Il y a, je sais pas, Aliou, Alassane, un site ou quelque chose où on peut retrouver les informations.
Oui, il y a un lien. On vous communiquera le lien tout à l'heure. Marmite du cœur. Donc, on invite tout le monde à venir s'associer à nous pour faire de belles choses pour les populations démunies.
On me demande pourquoi le docteur Gandour est un docteur.
Parce que je suis docteur en pharmacie.
Voilà, bravo. Voilà,
c'est ma profession. C'est je dirais pas que c'est mon premier amour, parce que le foot reste mon premier amour. Non, mais bon, voilà.
Les gardiens de but.
Voilà.
Ah. Sauf ça, il a tout le temps le doigt bandé.
Voilà, ça n'a rien à voir. Mais oui, non, pharmacien de profession, et puis dans le foot parce que c'est une passion, parce que j'adore le foot. Ensuite, j'ai eu la chance, le plaisir et l'honneur de vivre avec le groupe de 2002. Je pense que là, une amitié s'est créée et puis un relationnel très important s'est créé, que ça soit avec les joueurs et que ça soit avec le staff technique et le défunt Bruno. Et depuis ce moment-là, c'est, on va dire, le virus qui est rentré, qui est plus sorti, et puis les chaudes soirées avec Bruno sur les débats techniques et tactiques m'ont poussé à me lancer sur cette voie-là, mais je suis arrivé un peu par hasard au niveau de la consultance.
Il y a Afi aussi, hein. Sur Afi aussi, tu as.
Ah voilà.
merci, docteur Gandour, merci à Hassan Dour d'être venu. C'était très sympa. Et merci. Donc, rendez-vous le 16, hein, les gars. On verra qui avait raison.
Pas est prêt.
Ah, moi, personnellement, je suis pas très prêt, là, mais j'ai l'impression que le Sénégal est prêt. Merci. Dans quelques instants, on continue le débat. On va parler formation. On va parler du problème des supporters également dans quelques minutes. Et on va parler diplomatie également tout de suite.
RMC, l'After Foot en direct de Dakar.